Voilà, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. On est heureux de la salle, le local, le bâtiment dans lequel nous nous trouvons. L'église, c'est chacun d'entre nous, en réalité. Même si on se réunissait là-bas dehors, ce serait l'église. Mais merci Seigneur qu'on ait un toit sous notre tête. Et on prie, on sait que Dieu a pour nous des plans déjà merveilleux, mais encore plus merveilleux, si je peux m'exprimer ainsi, pour la suite. Alors, aujourd'hui, je commence une série sur le sermon sur la montagne. C'est très ambitieux. Ça doit faire peut-être, je ne sais plus combien d'années je prêche, j'ai l'impression que ce sera ma série la plus difficile, et peut-être la plus longue. Il faudra donc prier pour moi, et surtout, bien discerner si jamais je me trompe, le dimanche après ou après, vous pouvez dire, ah, là, tu t'es peut-être trompé, je ne vais pas me frustrer. Pourquoi je ne vais pas frustrer? Parce que ce n'est pas le prédicateur qui fait autorité dans cette affaire. C'est la parole de Dieu. Si je me trompe, bénissez-moi en me corrigeant. Ne me laissez pas dans l'erreur. Voilà. Ceci étant dit, donc on va parcourir pendant les semaines où je prêcherai. Alors peut-être avec quelques interruptions, je ne sais pas comment ça se passait, mais les chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile selon Matthieu. communément connu sous le nom de Sermon sur la montagne. Aujourd'hui, nous allons lire donc les Matthieu chapitre 5. Versets 1 à 16. Alors, ce qui peut m'aider, c'est que quelqu'un qui lit bien lise pour moi, parce que là, dans cette disposition, c'est vrai que c'est moins pratique. Un volontaire, sinon j'en désigne un. Une volontaire. Super.
À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchaient d'eux. Lui, il prit la parole pour les enseigner. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui tout profitent. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la demande. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sur son saut, mais on la met sur son support, car elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste.
Amen. Jusqu'ici, la parole de notre Seigneur. L'évangile de Matthieu ouvre le Nouveau Testament, premier livre de la Nouvelle Alliance. Il faut avoir en tête tout l'enseignement de l'Ancien. Pour bien comprendre un peu de quoi on parle, ça peut aider. Et là, si on essaie de réfléchir à la relation de Dieu et l'homme, on repart à la Genèse. Ah, parce qu'on ne peut pas tout résumer. On va essayer de se dire, mais comment tout ça a commencé? Dieu créa la terre et les cieux. Puis, il créa l'homme à son image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a créé l'homme afin que l'homme soit comme un petit Dieu, en fait. Son représentant. On dira son fils, puisque il a créé à son image. Ah, mais c'est comme un père et un fils. Oui, Adam et Ève étaient, on peut dire, les enfants de Dieu, le Créateur. À l'époque, tout se passait bien, il y avait une harmonie. Adam et Ève, quand on lit les premiers chapitres de la Genèse, on a l'impression qu'ils parlaient vis-à-vis. Qu'est-ce qui nous fait penser ça? C'est que quand il y a le péché, eh bien, les deux se cachent. Tu ne te caches pas de quelqu'un que tu n'as pas l'habitude de voir. Vous me comprenez? Donc, ils voyaient Dieu, ils parlaient avec Dieu. Et tout était sain et parfait. La Genèse nous dit un truc qui peut paraître surprenant. L'homme et la femme étaient nus. Et qu'est-ce que la Bible rajoute? Je n'avais pas honte. Ça, c'est une époque qu'on a perdue. L'homme et la femme étaient nus. Et ils n'en avaient pas honte. Ça veut dire quoi? Ça dit dans leur esprit, dans leur cœur. Il n'y avait rien de souillé. Tout était pur. Ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte. Il n'y avait aucune idée malsaine. C'était l'époque de l'harmonie parfaite entre Dieu et l'homme et la femme. Puis le péché est venu. Et avec le péché, tout s'est corrompu. Les rapports entre Dieu et l'homme, les rapports entre l'homme et la femme. L'image de Dieu dans l'homme, ça dévié. Et on voit Dieu qui chasse l'homme de sa maison. Tout l'Ancien Testament va nous parler de quelqu'un qui va venir. Les prophètes, les lois, tout l'Ancien Testament nous parle de quelqu'un qui va venir un jour, et lui, il va rétablir cette union avec Dieu qui a été perdue. Il va restaurer cette relation avec Dieu qui a été perdue. Il va briser le mur qui sépare l'homme et Dieu. C'est ainsi que Jésus arrive. L'ange qui annonce sa naissance à Joseph en Matthieu chapitre 1, verset 21, dit ceci, Matthieu chapitre 1, verset 21. Tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'était donc ça. Quand on a mal aux dents, on part voir un dentiste. Quand on a mal aux yeux, on part voir un ophtalmologue. Il faut trouver le spécialiste par rapport au problème auquel nous sommes confrontés. S'agissant de la relation avec Dieu, le problème, c'est le péché. Il n'y a pas deux spécialistes. Il n'y a pas un péchologue. Ah, tiens, je vais te soigner ton péché. Demain, tu vas voir, tu seras sans péché. Passe demain, entre 10 et 11, tu vas avoir une petite consultation, petite aspirine, c'est bon. le seul nom que Dieu a donné afin que l'homme soit délivré du péché, c'est Jésus-Christ. Tu l'appelleras Jésus car c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Et Jésus arrive et son premier message c'est de dire: repentez-vous car le royaume de Dieu est arrivé. Le royaume de Dieu est arrivé. Changez de vie. Le royaume de Dieu est arrivé. Le royaume de Dieu s'est approché. Et on voit Jésus qui enseigne, qui fait des miracles, qui chasse les démons, qui guérit les malades. Et c'est ainsi qu'il manifeste le royaume de Dieu dont il parle. Et donc le sermon sur la montagne, c'est la première prédication magistrale de Jésus, la prédication du royaume de Dieu. Oui. Alors le verset 1 nous dit au chapitre 5, à la vue de ces foules qui le suivaient, Jésus monta sur une montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Littéralement, puis il ouvrit la bouche et il enseigna. Et voici le sermon sur la montagne. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Verset 3. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. C'est une drôle de manière de commencer une prédication quand même. Qu'est-ce qu'il est étonnant, Jésus. Il ouvre la bouche, il commence à enseigner, et on sait que c'est un enseignement qui est dense. Ces trois chapitres, c'est du lourd. D'accord? Mais Jésus commence par heureux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Wow. À la fin de l'année ou en début d'année, on se souhaite bonne et heureuse année. Heureux, on peut se le dire. Moi, je peux vous dire heureux, heureux, heureuse semaine. D'accord? Moi aussi, je peux faire comme Jésus, vous prêcher comme ça, heureux. Jésus, c'est différent. C'est pas juste un vœu. Heureux, j'espère que tu seras heureux. Non, c'est pas un vœu, c'est plus qu'un vœu. D'abord, Jésus veut commencer par heureux pour marquer le fait qu'il est venu annoncer une bonne nouvelle. Oui, il est venu annoncer une bonne, excellente nouvelle à l'humanité. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Waouh, c'est quoi être pauvre en esprit? Reconnaître sa pauvreté spirituelle. C'est simplement ceux qui n'ont rien à faire valoir devant Dieu. Ceux qui s'abandonnent complètement à la grâce de Dieu. Les pauvres. Et dans l'idée de pauvre, en grec, c'est l'idée de se prosterner. Ceux-là qui sont devant Dieu comme ça, là, en disant, moi, j'ai rien si ce n'est ta grâce, mon Dieu. Ceux-là, Jésus dit, vous êtes heureux. Oh. Vous êtes heureux parce que le royaume des cieux vous appartient. Je veux dire, vous savez, le mot qui est traduit par royaume, c'est le même qui est utilisé par exemple dans le Notre Père où on dit que ton règne vienne, ou à toi le règne, la puissance et la gloire. C'est le même mot. Donc des fois il est traduit par royaume, des fois il est traduit par règne. Si on disait heureux les pauvres en esprit, car le règne des cieux ou le règne de Dieu vous appartient. Je trouve que ça change un peu. Et je trouve que ça nous permettra peut-être des fois de mieux comprendre ça. Parce que le royaume des cieux leur appartient, ça veut dire quoi? Si je dis la fierté sous joie t'appartient. Ah, tout m'appartient? Une partie? C'est pas assez clair. Ce que Jésus veut dire ici, c'est que les pauvres en esprit, le règne de Dieu, ils le partagent. Ça veut dire quoi? Il règne avec Dieu. Je répète, parce que c'est important. On ne va pas précipiter. Cette série va nous prendre plusieurs mois. Je veux vraiment que les bases soient claires. Ce n'est pas juste qu'ils sont dans le royaume de Dieu comme des simples citoyens ou même comme des serviteurs du royaume. Non, ils sont les propriétaires du royaume. Qui est propriétaire d'un royaume? C'est que le roi. Et qui d'autre? Ses héritiers. Jésus est celui en qui ces pauvres en esprit qui supplient Dieu en toutes choses deviennent les véritables enfants et héritiers et propriétaires du royaume de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que Jésus commence par ça. Les pauvres en esprit qui n'ont rien à acheter. Quelle surprise! C'est eux-mêmes les propriétaires dans le royaume de Dieu. Jésus dit ça, pas simplement comme une... Je me répète, mais ce n'est pas un souhait pour dire, ah, ça alors, ah, ça c'est pas mal, hein, votre situation, là, c'est pas mal du tout. Non, mais c'est que il le dit et c'est lui qui l'accomplit. C'est lui qui donne le royaume de Dieu aux pauvres en esprit. Donc, il n'est pas là en train de dire heureux, 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 comme quelqu'un qui est assis à l'extérieur et puis qui contemple une situation qui est indépendante de lui, mais c'est lui qui les rend heureux, c'est lui qui en est le garant. C'est comme un arbitre, quand il y a un match, chaque équipe peut contester, moi j'ai gagné, ok. Qui a vraiment gagné? C'est celui dont l'arbitre va dire, tu as gagné. C'est la même chose. Le seul qui peut dire à qui appartient le royaume de Dieu, c'est le roi en personne. Heureux les pauvres en esprit, qu'ils sachent que le royaume de Dieu leur est donné. Je peux même arrêter là la prédication d'aujourd'hui pour que vous compreniez quelle est l'extraordinaire nouvelle que Jésus annonce dans cette première béatitude. C'est pour ça que j'ai voulu rappeler d'où on vient. D'où on vient. L'homme déchu, corrompu, pécheur, rejeté par Dieu dans un monde de mensonges, dans un monde de ténèbres. Et c'est là que Jésus vient et dit, les pauvres en esprit, ceux qui se sont tellement attendus à Dieu, ceux-là, c'est à eux qu'appartient le règne de Dieu. Amen.
Amen.
Jésus te l'annonce aujourd'hui. Puis Jésus continue. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Voyez le sermon sur la montagne, plus précisément les béatitudes. Il y en a 8. Les 8 sont encadrés par 2 béatitudes au présent. Verset 3. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Vous voyez un peu? Le royaume des cieux leur appartient. Le royaume des cieux leur appartient. 1. 8. Et entre les deux, 6 béatitudes au futur. Dont la première, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Autrement dit, il y a une réalité légale, objective, factuelle. J'espère que je n'enchaîne pas des mots trop compliqués. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils sont les propriétaires du royaume de Dieu. Ils règnent déjà, puisque le royaume de Dieu leur appartient. Cependant, Il y a une consommation de ce royaume de Dieu, il y a une plénitude de ce royaume de Dieu qui s'accomplira dans le futur. Vous comprenez la nuance? C'est comme si je vais chez le notaire et je signe un acte de vente. Avec ce papier, je suis le propriétaire de la maison. Un point, un trait. Vous comprenez? Mais ça se trouve, je ne suis pas encore dans la maison. Pourtant, j'en suis le propriétaire. Il y a un peu de ça avec le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu leur appartient. Pourtant, ceux qui pleurent, ils auront déjà un petit bout de consolation ici-bas, mais le jour viendra où ils seront totalement consolés. Ceux qui pleurent, le frère Celso qui n'est pas là, qui est de l'autre côté, la semaine passée nous a parlé de Jésus pleurant. Ceux qui pleurent ici, il faut comprendre ceux qui pleurent sur les conséquences du péché, la souffrance, les injustices. Le jour viendra où ils seront définitivement consolés. Parce que quand Christ reviendra et qu'il établira définitivement son règne avec eux, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ceci, cela. Ils verront la véritable consolation qu'ils ont attendue. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. C'est quoi les doux, les débonnaires, dans certaines traductions? C'est ceux dont la société pense qu'ils sont les faibles, les serpillères. Oh, c'est là. Non. Non. C'est pas ça le chrétien. Est-ce que Jésus était comme ça? Non. Écoute, tu sais quoi? Dans l'Ancien Testament, dans la Bible, tu as des exemples. Je prends l'exemple d'Abraham et Lot. Vous me suivez? Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham, quand il devait se partager les terres? Il a laissé la meilleure part à son neveu. C'est pas parce qu'Abraham était faible. C'est parce qu'il était débonnaire et doux. Les débonnaires et doux, c'est ceux qui mettent leurs intérêts après ceux des autres. Ils font cela en ayant confiance à Dieu, en disant « Dieu de toute façon verra et me donnera une bonne part. » Le jour viendra où ces débonnaires, ces doux, hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Dans tout l'évangile de Matthieu, la justice c'est quoi? Là aussi c'est des mots, ah ça paraît compliqué. C'est la vie pratique. Je ne pense pas qu'il y ait une meilleure définition de la justice que ce que Jésus dit lui-même au verset 16. Que, voilà, au verset 16, voilà, que de la même manière votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir. C'est ça la justice, qu'ils voient votre justice. Qu'ils voient votre manière de vous comporter, de parler, d'agir. Parce que cette manière de parler, d'agir, de réfléchir, rend gloire à Dieu, est conforme à la parole de Dieu et elle honore Dieu. Ceux à qui appartiennent le règne de Dieu ont faim et soif de justice. J'aurais bien aimé que tout se fasse d'une manière qui plaise à Dieu. Dommage, dans ce monde, ce n'est pas toujours le cas, loin de là. Le jour viendra où cette faim qu'ils ont, cette soif, sera rassasiée, pleinement satisfaite. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Personnellement, je préfère quand c'est traduit miséricorde. Parce que pareil, bonté, c'est devenu tellement vague. Alors, une fois, j'ai discuté avec Christophe qui me disait, ah, mais des fois, quand tu dis, ah, j'aime telle traduction et pas l'autre, ça peut déstabiliser. J'espère que ce n'est pas le cas. Hein. J'ai des préférences en termes de traduction. L'idée est la même. Bonté, miséricorde, c'est la même idée. Hein. D'accord? Il n'y a pas de version qui ment. C'est juste que, ben, il y a des mots qui, dans le langage, sont devenus des mots connotés. Alors que miséricorde, en plus, misère, miséricorde, tu comprends que c'est ceux qui font attention à la misère des autres. Ils font attention à la misère des autres parce qu'ils se disent, J'ai besoin que Dieu fasse attention à ma misère, à moi. Et ceux-là, ils verront bien que Dieu aura fait attention à leur misère. Le jour où Jésus établira pleinement son royaume. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Là, j'en appelle à ceux qui ont fait des études de chimie. Je sais que tout le monde n'est pas scientifique ici, donc je rigole un peu. Un cœur pur en chimie, c'est un corps sans mélange. Point final. Un cœur pur, c'est un cœur sans mélange. Un cœur dans lequel Dieu réside seul. Nul ne peut voir Dieu dans cet état de mélange. Dieu est trop saint, trop pur, trop parfait. Mais ceux qui ont le cœur pur verront Dieu face à face. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Procurent la paix. Là, c'est pareil. Procurer la paix. Je préfère dans d'autres ceux qui sont des artisans de paix, non? Qui a un autre mot dans sa traduction texte? C'est mieux en anglais parce que c'est peacemaker. C'est ceux qui font la paix, quoi. Parce que procurer la paix, je trouve que ça peut être simplement de bonnes intentions. Non, les artisans de paix, c'est ceux qui sont actifs, qui font tout activement pour que la paix soit là. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, c'est pas juste, moi je reste dans mon coin, je suis en paix avec tout le monde. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je me confronte aux situations, je vais vers la personne. Je veux agir pour la paix. C'est de ça qu'il s'agit. Cela, ils seront appelés fils de Dieu. Parce que Dieu aussi est un Dieu de paix. Tout ce qu'on est en train de dire là, vous pouvez dire, ah mais ça alors, ça je ne me reconnais pas trop dans cette liste là parce que déjà le cœur pur, oulala, si on ouvre mon cœur ici là, ouh, c'est facile, ça va être tout blanc. Est-ce que c'est réaliste de prêcher ça? On peut dire à Jésus, mais Jésus, est-ce que tu ne mets pas là-bas trop? Qui peut se reconnaître? Qui peut entrer dans ce royaume? Et c'est là que tu comprends pourquoi Jésus commence par la première béatitude en disant les pauvres en esprit. C'est-à-dire, Dieu n'attend pas que tu aies le cœur pur. Dieu n'attend pas que tu sois le parfait artisan de la paix. Mais par ta foi en celui qui est le parfait artisan de la paix, celui qui a le cœur pur, celui qui s'est fait pauvre, par ta foi en Jésus, tu acquiers le royaume de Dieu. Et si tu as vraiment reçu Jésus dans ton cœur, si l'Esprit de Christ habite en toi, alors, à coup sûr, tu es sur un chemin qui te mène vers ce que tu es déjà. Qu'est-ce que je vais dire par là? Tu mets ta foi en Jésus, tu règnes avec Dieu. Tu es citoyen du royaume de Dieu. Mais tu es encore ici-bas sur cette terre. L'Esprit de Christ va te transformer petit à petit pour que tu deviennes progressivement ce que tu es déjà dans ton statut. C'est-à-dire que tu vas progresser dans la pureté de cœur. Tu vas progresser dans le fait d'être un artisan de paix. Tu vas progresser dans le fait d'être un doux, d'un miséricordieux. Vous comprenez la différence? Donc, ça nous interpelle. Si vraiment j'ai cru en Jésus, si vraiment je me dis je suis un citoyen du royaume, au moins partiellement, je dois me reconnaître dans cette liste. Sinon, je ne suis pas un citoyen du royaume. C'est de ça qu'il s'agit. Je dois me reconnaître dans ce caractère-là. Sinon, je dois me remettre en question. Comment se fait-il que tout le temps, tout le temps, tout le temps, ma vie est double, mon cœur est double, la même bouche qui bénit, c'est la même bouche qui maudit, qui critique, c'est pas bon, je refuse. Pourquoi? Parce que je suis un citoyen du royaume. Pourquoi c'est toujours moi qui défends si farouchement mes intérêts? On me marche sur le pied, je bouscule comme ça. S'il me marche sur le pied, ça fait quoi? Ça m'enlève quoi? Pourquoi je suis comme ça? Je refuse. Pourquoi? Parce que je suis un citoyen du royaume et que je veux imiter mon Seigneur. Pourquoi je suis si indifférent à la misère des autres? Il n'y a que sur moi seul que je pleure. Moi seul, et l'autre qui est à côté, oh, bizarrement, ça me laisse indifférent. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Parce que le royaume des cieux est pour ceux qui pleurent et qui savent qu'ils seront consolés. Pourquoi je suis dans ce monde comme un poisson dans l'eau? Je suis bien à l'aise. Je vais au travail, dans les transports. Je me sens tellement bien. Et pourtant, la dernière béatitude dit ceci. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et Jésus, sur cette dernière béatitude, enfonce le clou. Oui, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Vous voyez un peu la nuance entre le verset 10 et 11, persécuté pour la justice, et dans le verset 11, il dit, persécuté, tout ça, à cause de moi. Justice, moi, c'est pour toi qu'on est persécuté ou c'est pour la justice? C'est pareil. La justice pour laquelle le chrétien est persécuté, sa manière de vivre pour laquelle il est persécuté, cette manière de vivre-là, il l'a à cause de sa foi en Jésus, parce qu'il veut imiter Jésus. Au final, c'est à cause de Jésus que le chrétien est persécuté. Ça m'interpelle aussi. Vous savez, Jésus dit des choses, des fois ça sort, tu dis, mais d'où il sort ça? Dans l'évangile de Luc, Jésus dit une phrase, Luc 6, 26, attendez, parce que je ne vais pas le paraphraser. C'est ça qu'on fait des diversions. Luc 26. Voilà. Parce que je... Voilà. Luc chapitre 6, verset 26. Ah, tu l'affiches? Ah, t'es trop fort, toi, Daniel. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que les ancêtres traitaient les prétendus prophètes. Ça, c'est quoi comme phrase? Malheur à toi si tout le monde dit du bien de toi. Mais moi, je pensais qu'en tant que chrétien, tout le monde devait dire du bien de moi. Oui, un chrétien, Patrick, lui le chrétien. Ah non, lui il est nickel. Alors franchement, lui, alors là, il y a pas, lui fait l'unanimité. Ça, tu ne peux pas lui trouver un défaut. Ça m'inquiète. Parce que pour Jésus, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc ça m'interpelle. Ça veut dire que si je vis vraiment ici-bas, comme un citoyen du royaume, je devrais être d'une manière ou d'une autre persécuté. Ça ne veut pas dire qu'on va me tuer, mais Jésus, il parle, si on regarde Matthieu, d'insultes, de calomnies. Quand on lit le livre des Actes au chapitre 5, verset 41, on constate que depuis le début du livre, les apôtres se réunissent, ils prient, l'église grandit, et puis ils sont contents. Et puis au moment, ils sentent que Jésus nous avait promis la persécution. Pour le moment, on est bien à l'aise là. Est-ce qu'on est vraiment dans son plan? Et puis au moment, ils sont arrêtés et ils sont bien tabassés. Actes chapitre 5, verset 41, la Bible dit, ils étaient vraiment contents d'avoir été jugés dignes de souffrir pour l'évangile. C'est extraordinaire. Là, ils se sont dit, ah oui, là je pense qu'on est dans la vérité. Parce que ce même monde qui a persécuté notre Seigneur nous persécutera à coup sûr. Si tu es tellement bien installé dans ce monde, pose-toi des questions. C'est que tu ne brilles pas assez de la lumière de l'évangile. Parce que, et c'est ce que Jésus dit entre les versets 13 et 16, je regarde l'heure parce qu'ici il n'y a pas la montre, je suis dans les temps, ne vous inquiétez pas. Vous êtes le sel de la terre, Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux dans la maison. Et le verset 16. Que, de la même manière donc, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire du Père céleste. Ah! Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Je me demande, Dieu qui est si grand, si parfait, Dieu qui a tout, qu'est-ce qui réjouit Dieu? Est-ce qu'il y a un truc où, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis Dieu va dire, ah, je suis trop content, oh là là, je suis trop content de Dominique aujourd'hui, oh là là, ma fille Isabella, ah, je suis trop content, oh là là. Tu me dis, mais qu'est-ce qui peut bluffer Dieu? Qu'est-ce qui peut le surprendre? Dans l'absolu, rien ne peut le surprendre. Rien ne peut le bluffer. Mais il y a quelque chose qu'il aime, il y a quelque chose qu'il aime, il y a quelque chose qu'il aime. Et c'est quoi? Quand il voit son peuple être lumière du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu regarde le monde, tout est ténèbres. C'est pour ça qu'il parle d'une maison sur la colline. Voyez, maintenant j'habite dans un village qui est un peu grand, mais qui est un village, à Montmirail. J'avais jamais connu ça avant. La nuit, je crois, c'est à partir de 22h30, ils coupent toutes les lumières. À Lagny, là où on habitait, il ne faisait pas ça. Les lampadaires et tout ça restaient allumés toute la nuit. Mais à Montmirail, pour ceux qui connaissent, ils coupent la lumière. J'ai jamais vu ça. Mais tout est noir. Tout est sombre. Tu ne vois rien la nuit à Montmirail. Et donc, quand il y a une lumière comme ça, qu'est-ce que tu la vois bien? Parce qu'au milieu de toutes ces ténèbres-là, une lumière. C'est comme ça que Dieu voit l'Église dans ce monde. Et quand Dieu regarde le monde, il soupire, il dit, heureusement qu'il y a quand même un peu de lumière ici. Quand Dieu regarde le monde, il dit, mais c'est quoi ce tas de pourriture? Ah, heureusement, il y a mes enfants, il y a mes disciples qui sont pour ce monde comme du sel. Le sel à l'époque avait surtout la propriété d'éviter la pourriture. Tu es la joie de Dieu. C'est pour ça qu'il te dit ça, comme ça, quelque chose qui est impensable. Tu es la lumière du monde. Là, tu te dis, demain, je vais prendre le métro, je serai serré, je ne vois pas en quoi je suis lumière du monde. C'est ça la parole de Dieu. Lui, il te voit comme lumière du monde. Il nous voit comme celle de la terre. Pourquoi? Parce que, avec la foi en Jésus-Christ, il y a quelque chose de différent. Oui, nous pleurons, oui, nous souffrons, oui, nous sommes en difficulté, oui, nous trébuchons, oui, nous chutons encore. Mais notre statut en Jésus-Christ est bien différent. La lumière ne s'éteindra jamais dans ta vie si tu te confies en Jésus-Christ. C'est pas moi qui le dis comme si j'avais une prophétie. Non, c'est parce que celui qui est la véritable lumière, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui allume la lumière en toi, qui ouvre les yeux de ton cœur pour jamais les refermer. Alors quand on lit le début du sermon sur la montagne, il y a un évangile, il y a une bonne nouvelle. Oui, Seigneur, tu fais de moi ton enfant, tu fais de moi ton héritier. Et puis, il y a une invitation à marcher dans les voies ici-bas comme un citoyen du royaume. Vous voyez un peu comment Jésus commence sa prédication? Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Ce qui nous encourage aussi, c'est que si nous sommes les témoins du Christ, c'est vrai, il est dit, vous serez persécutés à cause de la justice, vous serez persécutés à cause de moi. Heureusement, il n'y a pas que de la persécution, puisque il le dit à la fin du verset 16, que votre lumière brille, et qu'ainsi ils, ceux qui vous voient, célèbrent la gloire de Dieu. Donc, au milieu de ce monde méchant, qui pour la majorité nous persécutera, certains verront dans notre justice, dans notre comportement, la gloire de Dieu. C'est aussi encourageant. Le chrétien n'est pas ici là seulement pour être persécuté, mais de temps en temps, quelqu'un qui te voit comment tu te comportes et puis qui dit, mais vraiment, toi, t'es différent quand même. Qu'est-ce qui te... Et puis tu réponds par ton expérience, oui, j'ai mis ma foi en Jésus-Christ. Et puis il dit, ah bon? Tiens, j'ai envie de connaître ce Jésus, j'ai envie de connaître ton Dieu. Et là, une joie qui déborde dans ton cœur. Amen.
Amen.
Que votre lumière brille dans ce monde et que le monde voit la gloire de Dieu. Mais si le monde fait le choix de te persécuter, tiens ferme. Et Jésus rajoute, réjouis-toi si tu es persécuté. Réjouis-toi. Parce que c'est la preuve que le royaume des cieux est vraiment à toi. Nous allons poursuivre ces prochaines semaines le sermon sur la montagne. Mais déjà, cette introduction, je ne veux pas que ce soit simplement une espèce de bonne nouvelle. Jésus l'a voulu ainsi. C'est vrai que c'est ça qu'on doit retenir, la bonne nouvelle. Heureux, 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 mais je veux que nous retenions aussi, et moi le premier, l'invitation à s'examiner, à se considérer par rapport à ce que Jésus dit là. Et pour ma part, quand je préparais ce texte, ah non, j'ai trop de travail. Oh là là, oui, ça ne va pas du tout. Sur une moyenne de 20, personnellement, je me donne 4. Ça veut dire que j'ai beaucoup de travail encore. Heureusement, je n'ai pas besoin d'avoir 5, 10, 20 pour être sauvé. Mais si je suis sauvé, ma moyenne doit monter. Oui, je ne dois pas rester dans la saleté. Non, 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 non. Non. Vous voyez la différence? Ce n'est pas du légalisme, hein. Ce n'est pas faire ça pour être sauvé, c'est parce que tu es sauvé, vis-le. Sois ce que tu es, deviens ce que tu es. Si tu ne le deviens pas, tu n'es pas ce que tu crois. C'est un message personnel, hein. C'est pour moi, je me prêche en premier. Parce que là, vraiment, waouh, des fois je suis surpris, j'ai encore des rancunes. Même contre des chrétiens, même contre ma femme. Mais comment? Je suis baptisé en 2004. 20 ans de vie chrétienne, on doit encore t'apprendre à pardonner. Si ton frère a péché, va le voir. Mais moi, je suis assis là. Vous comprenez le défi? C'est de ça qu'il s'agit.